Après avoir montré la profondeur et la largeur du combat spirituel en considérant les conséquences du péché originel, je voudrais essayer de mettre en évidence les grandes lois du combat spirituel, en tout cas en mettre quelques-unes au moins, en essayant de commencer par ce qu'il y a de plus fondamental. Et ce qu'il y a de plus fondamental, nous l'avons déjà mis en lumière, c'est la foi, c'est-à-dire aussi la question de tout ce qui mine notre foi, le doute, comme premier péché qui détruit à la base donc toute notre vie spirituelle. Vous savez que le catéchisme dit que tout péché est un manque de confiance en Dieu. Ça n'apparaît pas de manière évidente, hein, que tout péché soit un manque de confiance en Dieu. Et c'est le fond de tout péché. Le fait de bien garder ça présent à notre esprit peut nous aider à comprendre que le combat spirituel, c'est d'abord le combat de la foi. Et je voudrais essayer de vous pénétrer de cette pensée que ce combat de la foi, Jésus l'a mené pour nous, même si je n'ose pas parler de la foi du Christ, au sens sens ordinaire de ce terme de foi. Certains théologiens ont parlé ainsi, je pense à Osvan Balthazar, mais personnellement, je préfère garder le langage traditionnel de l'Église et parler simplement de la confiance du Christ. Christ est allé jusqu'au bout de la confiance dans sa passion. Donc essayons de contempler la manière dont le Christ nous a sauvés par sa confiance. Comment il a réparé ce qui avait été blessé dans nos cœurs par je dirais, le venin du malin qui a semé le doute, qui a donc blessé cette confiance première qui était dans le cœur d'Adam quand il a été créé par Dieu dans l'état de sainteté et de justice. Comment Jésus non seulement répare ce qui a été abîmé par le malin, père du mensonge, mais comment il mène notre foi à sa perfection. Qu'est-ce que Jésus a vécu sur la croix? Bien, il a vécu un état d'abandon. Il a éprouvé dans son humanité ce que devrait éprouver le pécheur, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Et alors même qu'il était dans cet état d'abandon, Père Thomas Philippe aimait parler d'une suspension de la communion. Eh bien, abandonné par le Père, comme dit Jean-Paul II, il s'abandonne entre les mains du Père. Et c'est de cette manière-là, donc en vivant la confiance jusqu'à la croix, hein, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin, qu'il nous libère de l'emprise du doute. Qui nous rend capable d'aller jusqu'au bout de l'acte de confiance que notre Père du ciel attend de nous depuis toujours, c'est-à-dire d'une confiance filiale aveugle, une confiance absolue. On pourrait redire les choses en termes donc de retrouver un cœur d'enfant. Jésus nous redonne ce cœur d'enfant capable d'une confiance absolue. Et donc, même si l'expression ne revient qu'une fois dans l'Écriture, il est bon d'appeler Jésus l'initiateur de notre foi, comme le fait l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 2. Il est lui l'initiateur de notre foi, la Bible de Jérusalem traduit le chef de notre foi, le premier de cordée, dans ce chemin de confiance totale qu'il a ouvert par sa passion. Il est l'initiateur de notre foi, celui qui l'amène à sa perfection. C'est-à-dire qu'il a ouvert par sa mort sur la croix la porte de la foi dans notre cœur. Cette porte qui avait été fermée par le péché originel. Aussi, j'aime beaucoup cette expression de saint Pierre, « Par lui, le Christ, vous croyez en Dieu. » Qu'il a fait ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire. Si bien que votre foi soit en Dieu comme votre espérance. Dans le mystère de la Passion de Jésus, nous contemplons la victoire de la confiance. Parce qu'il est allé jusqu'au bout de la confiance, parce qu'il s'est remis entre les mains de son Père, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », après avoir dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ, en même temps, donc, a expérimenté la réponse du Père, qui est la résurrection. Et donc, quand nous regardons Jésus dans le mystère de sa passion et de sa résurrection, nous savons que dans toute épreuve, si nous conformons au Christ dans cet acte de confiance qu'il a posé pour nous, avec son cœur d'homme, dans son cœur d'homme sur la croix, eh bien, si nous vivons l'épreuve avec lui, dans cette confiance filiale, nous savons que nous ressusciterons avec lui. Savons que le mal n'aura pas le dernier mot. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, en même temps qu'elle parle du Christ comme de l'initiateur de notre foi, nous invite à fixer nos yeux sur lui. Je vous lis le début du chapitre 12. « Voilà donc pourquoi nous aussi enveloppés que nous sommes d'une seule grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. » Cette épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Fixant nos yeux sur le chef, donc, on peut dire, l'initiateur de manière plus littérale de notre foi, qui l'amène à la perfection, Jésus qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix dont il méprisa l'infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Songez à celui qui endurait de la part des pécheurs une telle contradiction afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. On pourrait dire aussi bien par manque de foi. Donc nous avons besoin de contempler ce mystère, nous avons besoin de contempler Jésus dans ce mystère, le mystère pascal, pour apprendre à mettre notre confiance en Dieu dans l'épreuve elle-même. En gardant donc nos yeux fixés sur Jésus, pour nous laisser entraîner par lui sur ce chemin. Ici, ce n'est pas la peine, à chaque fois qu'on est éprouvé, nécessairement de repenser que le Christ est sorti victorieux par sa confiance et qu'il nous ouvre la porte de la victoire. Et il suffit de penser à lui, en fait. Penser à Jésus. Un simple regard sur Jésus. Jésus mort et ressuscité, sans qu'il y ait nécessairement donc à faire fonctionner la tête, mais un regard du cœur, ce Jésus mort et ressuscité suffit pour réveiller dans notre cœur cette confiance en notre Père du Ciel qui l'a ressuscité et qui nous ressuscitera avec lui. Saint Paul dit que Jésus est notre espérance. J'ose pas dire qu'il est notre foi, mais je dis qu'il est celui par qui nous croyons. Et nous devons, de certaine manière, sans cesse repasser par lui, je dirais, pour que notre foi soit vraiment le fruit de notre adhésion au Christ, qu'elle soit communion à sa confiance à lui, qu'elle puisse aller jusqu'à un abandon total, qu'elle puisse aller précisément jusqu'à sa perfection. Parce que l'Épître aux Hébreux qui parle ainsi à propos du Christ qui mène la foi à sa perfection, elle rappelle justement ces témoins de la foi. Elle cite Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et d'autres encore pour montrer cette grande chaîne de croyants qui nous ont laissé un beau témoignage, mais qui ne devait pas parvenir, comme dit l'Épître aux Hébreux, ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Cette perfection qui est donc possible maintenant par notre adhésion au Christ, je dirais qu'il ne faut pas nous contenter donc d'un acte de foi qui serait encore qui ne serait pas encore une confiance absolue et aveugle. Mais il nous faut penser que par le Christ, cette confiance absolue et aveugle qui n'est pas possible humainement de vivre, en raison des conséquences du péché originel, mais aussi en raison de la faiblesse de notre humanité, par le Christ, elle est possible. L'abandon total est possible. La confiance absolue est possible par Jésus. Même si ça apparaît humainement, tout à fait au-dessus de nos capacités psychiques. C'est pour ça que Jésus nous appelle à croire aussi en lui, c'est-à-dire vraiment à adhérer à lui. J'ai envie de dire à nous laisser contaminer par lui, par cet esprit de confiance totale. Rappelez-vous ces paroles, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi par le chemin de la foi au Christ, dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, nous osons nous approcher du Père en toute confiance. Finalement, c'est un chemin progressif. C'est un chemin progressif qui se fait à travers, donc en même temps, une adhésion toujours plus profonde à la personne du Christ, une contemplation de Christ. Ici, j'aime rappeler la parole de Jésus. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. C'est-à-dire, ici, si nous reprenons l'analogie avec le serpent d'airain, le serpent d'airain, les Hébreux devaient regarder vers lui pour être guéris. Donc, croire en Jésus pour avoir la vie éternelle, c'est regarder vers lui, contempler celui que nous avons transpercé pour être guéri du venin du doute. Et laisser sa puissance d'attraction s'exercer sur notre cœur avec une puissance plus grande que la séduction du malin qui cherche à nous entraîner sans cesse sur le chemin de l'indépendance, de l'autonomie, d'une vie par nous-mêmes, et en définitive pour nous-mêmes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous commençons par regarder Jésus, par l'écouter. Et c'est ainsi que peut donc se développer dans notre cœur la foi. Quand nous sommes attaqués donc par le malin au niveau de la foi, par des pensées de doute qui nous assaillent, il ne s'agit pas de raisonner, il ne s'agit pas de se débattre au niveau des pensées, il s'agit de revenir à ce simple regard du cœur vers Jésus, sans hésiter à prononcer son nom. Nous réfugier dans le nom de Jésus face à tout ce qui pourrait abîmer notre foi. C'est sûr qu'à certains moments, nous laissons aller à des pensées de doute, hein, de remise en cause, même si nous ne l'avons pas, nous laissons ces pensées s'insinuer en nous. Mais plus profondément encore, nous vivons dans un monde qui nous pousse continuellement à gérer les choses et à les contrôler comme si elles dépendaient d'abord de nous. Et ça, ça nous colle vraiment à la peau. C'est presque une deuxième nature, à tel point qu'on s'en rend le plus souvent pas compte du tout. Qu'en fait, qu'on agit sans vivre cette dépendance filiale, aimante à notre Père du ciel qui tient toute chose dans sa main. Et la meilleure preuve, c'est que nous passons une grande partie de nos journées à faire des calculs qui ne servent à rien, qui n'aboutissent à rien, de se dire je devrais dire telle chose à telle personne, je devrais faire telle démarche pour arriver à ceci et cela. Nous savons bien que le plus souvent, tout ce que nous imaginons, nous élaborons par notre imagination, tout ça s'effondre. Et ça ne fait rien, chaque jour nouveau, je dirais, est pour nous le lieu de nouveaux projets, de nouveaux calculs. Je ne parle pas simplement pour les grands projets, mais même pour les petites choses, hein. Et au fond, cela, c'est comme un. C'est tout un état d'esprit dans lequel on baigne depuis notre plus petite enfance. Ce que Benoît XVI appelle dans son livre Le cœur de toute tentation. c'est tout simplement de vivre sa vie d'abord en assurant soi-même cette vie, en cherchant à assurer soi-même, à gérer soi-même, à contrôler, tout simplement. Il n'en faut pas plus pour pécher contre la foi que de chercher à assurer déjà par soi-même notre vie sans d'abord se remettre entre les mains de Dieu. Ça veut dire à ce moment-là, on pêche continuellement contre la foi, disons qu'on manque continuellement de foi. Et je vous dis que là, il y a une transformation en profondeur d'une mentalité qui est la mentalité permanente du monde, que Benoît XVI aime bien résumer en une formule qui est de vivre comme si Dieu n'existait pas. Ça veut dire que nous ne pensons jamais que Dieu n'existe pas, mais en réalité, de fait, nous agissons continuellement sous la pression du monde, de toute une mentalité ambiante, comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire en faisant abstraction de sa toute-puissance et de sa grâce. Et donc, en fait, la question qui se pose, c'est comment pouvons-nous progressivement, aidés par Jésus, poussés par Jésus, entrer dans une vraie vie de foi au quotidien. Changer notre mentalité en profondeur. Déjà prendre conscience que nous sommes tous contaminés par cet esprit d'autonomie, d'indépendance du monde. C'est une évidence pour l'homme moderne qu'il doit gérer et faire sa vie. En oubliant ce que dit le prophète Jérémie et ce qu'aimait citer la petite Thérèse, que la voix des humains n'est pas en leur pouvoir et qu'il n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses pas. Ça me rappelle un livre qui avait eu beaucoup de succès des ténors du Nouvel Âge, qui expliquait que sa mère avait une foi catholique simple, mais que lui avait pris en main sa destinée spirituelle. C'est bien ça, prends en main ta vie. Ça ne prête pas à discussion. Celui qui ne prend pas en main sa vie, c'est quelqu'un qui refuse de s'accomplir en tant qu'homme, puisque notre humanité ne peut se réaliser que si nous prenons nous-mêmes en main notre vie. C'est là notre dignité, et la religion est une aliénation. Vous allez me dire qu'il y a un équilibre à trouver entre le fait de vivre cette confiance absolue, totale, aveugle, et puis le fait de ne pas non plus passer à côté de nos responsabilités. Alors là, il en faut de la sagesse. Je me souviens que, je crois, Pie XI a dû répondre aux critiques d'un certain nombre de patrons très, très chrétiens, mais qui s'opposaient à la... quelque part à la béatification de la petite Thérèse, au sens où ils ne voyaient pas du tout comment eux, en tant que patrons, responsables, donc d'une manière évidente, pouvaient suivre la voie d'enfance. Et je me souviens que Pie XI, je n'ai pas retrouvé les paroles exactes, mais je me souviens que la réponse de Pie XI était claire, la voie d'enfance, c'est pour tout le monde, c'est le secret de la sainteté, et c'est pour tout le monde. Maintenant, au quotidien, dans un monde dans lequel cet esprit d'enfance est continuellement traité par le mépris, comment arriver à suivre un chemin de foi En se laissant guider par Jésus, l'enfant, le petit enfant bien-aimé du Père, c'est lui, Jésus, qui l'ouvre, la voie d'enfance. Comment pouvons-nous avancer donc sur ce chemin? Je dirais que la première chose, c'est d'aimer croire. Exactement l'inverse du monde. Prend carrément, je dirais, à contre-pied l'esprit du monde. L'esprit du monde nous dit que cette confiance aveugle, elle est une démission de notre, par rapport à notre liberté, par rapport à notre créativité, enfin tout ce qu'on peut entendre, et qu'il faut au contraire essayer de développer tout notre potentiel. C'est, quand on y pense, ce langage-là, qu'est-ce qu'il est contaminé par le par l'esprit d'orgueil, par, en définitive par l'esprit du mal, hein, du malin. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer la foi? Ça veut dire prendre conscience que c'est ce que nous pouvons faire à Dieu comme cadeau qui touche le plus son cœur de père. Ce que Jésus reproche continuellement à ses apôtres, la seule chose qu'il leur reproche avec cette insistance et cette, je dirais, comment dire, une certaine, pas dire dureté, mais enfin, oui, une grande insistance, c'est d'être des hommes de peu de foi. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? C'est là que se situe vraiment le reproche du Christ. Eh bien, pourquoi Jésus fait-il ces reproches? Parce qu'il sait que ce que son Père attend de nous, c'est d'abord cette foi. C'est sûr que la foi est un don de Dieu, puisqu'elle nous est donnée par le Christ, mais c'est vrai aussi que les actes de foi que nous pouvons poser dans notre vie quotidienne, au fond de notre cœur, en regardant Jésus, ces actes de foi, ils dépendent de nous. Si nous regardons Jésus, nous laissons porter par le Christ. Poser un acte de foi au fond de son cœur en pensant que c'est de cette manière-là que nous répondons à l'attente de notre Père du Ciel. Ce n'est pas tant de faire de grandes choses pour les autres, mais c'est de vivre ce que nous avons à vivre sur terre avec plus de confiance. Vous voyez, ça rejoint cette intuition de la petite Thérèse, il y a plus de mérite à recevoir qu'à donner. Plus de mérite à accueillir, plus de mérite à faire confiance qu'à donner aux autres. En fait, le vrai sacrifice, en profondeur, c'est le sacrifice de notre besoin d'autonomie, d'indépendance, le sacrifice de notre orgueil, une volonté de maîtrise de nous-mêmes, de notre vie, des choses. Briser ça en regardant Jésus, en laissant Jésus le briser en nous, c'est ça le combat de la foi. Et ce combat, c'est le plus beau combat, et c'est c'est ce qui restera en définitive je dirais, c'est ce qui assurera la beauté et le rayonnement de notre vie pour l'éternité. Nous pouvons nous aider en pensant que cet acte de foi, nous n'avons que cette vie pour le poser. Je vous rappelle la parole de la petite Thérèse, nous n'avons que cette vie pour vivre de foi. C'est évident que depuis le péché originel, il y a une peur de dépendre d'un autre. Il y a un secret désir de pouvoir compter sur soi, de pouvoir compter sur nos propres forces pour assurer les choses. Comme cet homme qui avait fait une grande récolte et qui voulait, dans la parabole du Christ, qui voulait mettre cette récolte dans ses greniers pour pouvoir dire à son âme, « Mon âme, tu as quantité de biens en réserve, repose-toi. » C'est-à-dire, repose-toi sur toi-même. Et sacrifier ce besoin d'avoir en soi un appui et accepter de marcher sur les eaux sans appui et pourtant appuyé, dit saint Jean de la Croix, ça nous ne pouvons le faire que sur cette terre, c'est maintenant. C'est maintenant que nous pouvons montrer à notre Dieu d'amour notre confiance filiale. Et pourquoi nous ne mettrions pas notre gloire dans notre foi? Cette foi confiante, totale, que le monde, je dirais, cherche à tourner en ridicule, en pensant que c'est de l'infantilisme et une démission par rapport à notre premier, pourquoi ne pas penser que c'est plutôt la vraie gloire? La gloire de mourir à notre esprit d'autonomie, définitive, notre esprit d'orgueil. Et donc, pourquoi ne pas mener le combat de la foi, en pensant donc que c'est là le plus beau combat, et que finalement, tout est occasion, toutes les épreuves, les contradictions de la vie, c'est occasion de grandir dans la foi. En ce sens-là, nous pouvons comprendre ce que dit saint Jacques. « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. » Chapitre 1, au verset 2, « Vous le savez bien, bien éprouvé, votre foi produit la constance. » Et on pourrait citer ici aussi saint Pierre. Disant, il vous faut encore quelque temps être affligé par diverses épreuves afin que bien éprouvée votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. C'est bien ça. C'est notre foi qui sera un sujet de gloire pour l'éternité. Donc, pas simplement, si vous le voulez, rechercher la foi parce qu'elle est la porte de la vraie victoire, saint Jean le dit, notre victoire c'est notre foi. Mais c'est pas simplement parce que la foi soulève les montagnes. C'est pas simplement de vouloir croire pour finalement réussir sa vie en Dieu, avec Dieu. Mais c'est croire pour croire. Parce que la foi elle-même est la première richesse. Et que la première victoire, c'est la foi elle-même, c'est une victoire sur le péché originel. Alors je reviens à la difficulté de ces bons patrons chrétiens qui, au début du XXe siècle, se sont alarmés du fait qu'on exalte, que l'Église exalte la voie d'enfance, pensant que c'était pour eux absolument invivable, je reviens à cette difficulté, c'est-à-dire comment être un homme qui assume ce qu'il doit assumer dans un monde qui ne fait pas de cadeaux, tout en vivant, en suivant Jésus sur le chemin de la confiance aveugle, filiale des tout petits. Écoutez Saint Jacques parlant aux riches de ce monde. Et bien maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Ça allait me dire que ce n'est pas tellement quelque chose que nous pouvons concevoir souvent, de faire de tels plans, mais en réalité, nous n'arrêtons pas de nous projeter d'une manière semblable dans l'avenir. Et à vrai dire, à lire comme ça, on ne voit pas tellement où est le mal. Aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Bien, Saint Jacques reprend tout de suite après. Vous ne savez, vous qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît un instant puis disparaît. Que ne dites-vous au contraire? Essayons de comprendre ce au contraire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est intéressant ces deux langages différents. Je vous laisse dans votre cœur sentir la différence qu'il y a entre le fait de dire aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent, et le fait de dire si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Première chose qu'on remarque, c'est que la deuxième version est plus courte. C'est-à-dire, on ne projette pas trop loin. Le malin nous attend dans les grandes projections. Je ne voudrais pas vous citer des exemples de la vie de l'Église, mais vous savez, ces grands projets qu'on fait. J'ai un exemple à la tête, mais comme ça concerne des faits assez récents. Mais ces grands projets que l'on mène, vous voyez, c'est pas bon signe quand on voit trop loin, en se laissant prendre finalement par une certaine ivresse dans le calcul des choses qui fait qu'on prévoit de pouvoir arriver quand même à faire quelque chose de très bien. Alors que la question en réalité devrait être toujours pour nous, quel est le pas que j'ai à faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu attend maintenant de moi? Qu'est-ce qui m'est donné de voir comme étant juste et bon à faire? À moins d'une inspiration forte, d'une inspiration intérieure qui vienne de notre cœur et qui nous pousse à faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre simplement de notre devoir d'État, nous restons purement et simplement dans notre devoir d'État. Si les circonstances obligent à faire telle ou telle démarche, nous ne faisons qu'obéir aux choses. Nous restons dans l'obéissance et nous restons dans la confiance, puisque nous restons dans l'obéissance. Mais de soi-même projeter quelque chose qui n'est pas de l'ordre du nécessaire, c'est un piège. Vous allez me dire, on peut bien faire des projets. Eh bien non, justement, on ne peut pas faire de projets. Les projets, c'est Dieu qui les fait pour nous. On n'a qu'une seule chose à faire sur cette terre, c'est de se laisser conduire par lui. On n'a pas un droit d'agir de nous-mêmes et de penser de nous-mêmes ce qui serait bon à faire en fonction de nos goûts personnels ou de nos ambitions du moment. On a à suivre Dieu en tout. C'est ça, dépendre. Et donc, si Dieu le veut, je me remets devant la seule chose qui compte, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Nous irons dans telle ville, parce que les circonstances font que, tant que nous pouvons juger, c'est là que ce serait le mieux, à vue humaine. Et aussi parce que, en nous remettant devant la volonté de Dieu, nous inclinons plutôt dans ce sens-là. Mais à la limite, vous voyez, si Dieu le veut, nous irons dans telle ville, nous vivrons déjà. On se remet aussi devant la mort, nous ne savons pas si nous vivrons, mais si Dieu le veut, nous vivrons. C'est bon de se remettre devant la mort, possible, et nous irons dans telle ville. On peut y aller en pensant faire du commerce, mais en réalité, on n'a même pas besoin de penser comment on va gagner de l'argent là-bas. Il y a une, je dirais, une circonstance qui laisse penser que c'est possible, mais on ne fait pas plus de projets si ces projets ne sont pas nécessaires. C'est là que, dans la prévision, il me semble qu'il y a tout un art pour trouver le juste équilibre, évidemment. À quel moment on s'arrête d'imaginer les choses ? Dans la pensée que c'est le pas qu'on va faire qui nous permettra de mieux voir le pas suivant, évidemment. Et qu'à vouloir précéder les choses en allant plus vite que l'Esprit Saint, comme on dit actuellement, eh bien, en réalité, c'est là que, comme il s'y mêle une forme de prétention à dominer les choses, à les maîtriser par nos calculs, c'est là que ça suffit, ce manque de foi, pour que le malin s'y glisse. C'est ça que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, on a peut-être pensé faire bien, mais l'orgueil aidant, la prétention aidant, on a suivi des voies qui n'étaient vraiment pas celles de Dieu. Sur cette terre, on navigue à vue, hein. Je repensais cet après-midi que combien de fois nous faisons du mal en tombant de haut, c'est-à-dire du haut de nos projets, alors que si on avait su attendre en paix l'inspiration de Dieu, en se laissant guider simplement par le devoir d'État et les choses qui s'imposent à nous dans le moment présent, eh bien on évite tant de déceptions amères. Et on évite aussi de poursuivre des chimères continuellement. C'est un peu notre condition de pécheur sur terre, c'est que nous passons notre temps. Donc, je parle même de mini-projets, vous voyez, qu'on se met dans la tête, et puis que les choses se font jamais comme on avait vraiment pensé. Donc on est toujours sur fond un petit peu de. Un petit peu de déception parce que les choses ne se passent pas comme voilà, on avait pensé que, on voulait parler à telle personne, et voilà, et puis on se rend la vie finalement un peu triste comme ça parce que. On pense trop. On pense trop, on veut trop, on rêve trop, et on se crée de faux espoirs. Cette réalité, c'est bien ça. Et donc, je vous invite à méditer Jacques 4, 13, 16. Et de comprendre ce que veut dire Benoît XVI quand il met en évidence qu'il y a des idées, comme il dit, originales sur les moyens d'action que l'on ne peut pas programmer et qui naissent dans la situation elle-même. La chose la plus importante est que nous demeurions nous-mêmes, pour ainsi dire, dans le rayon du souffle de l'Esprit-Saint, en contact avec lui. Là où on croit vaincre par nous-mêmes, il n'y a pas de place pour l'Esprit-Saint. Là où on projette de trop, où on s'emballe dans la pensée, dans l'imagination, en allant au-delà de ce que les choses nous disent, en allant au-delà de ce que notre cœur nous dit, et en laissant notre imagination donc s'emballer, et c'est là que le malin peut intervenir. Je dis là, il n'y a pas de place pour l'Esprit-Saint. Si nous demeurons, la chose, demeurions dans le rayon du souffle de l'Esprit-Saint, en contact avec lui, suppose de demeurer dans la foi filiale. Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui donnent sa grâce aux humbles. C'est uniquement si nous sommes continuellement touchés intérieurement par l'Esprit Saint, s'il est présent en nous, ce n'est qu'alors que nous pouvons également donc, le transmettre aux autres. Il nous donne alors, j'aime bien cette expression, l'imagination et les idées originales sur les moyens d'action. Des idées que l'on ne peut pas programmer, mais qui naissent dans la situation elle-même, parce que c'est là l'œuvre de l'Esprit-Saint. Ça, c'est la sagesse. Accepter de ne pas tout contrôler et laisser de la place à la lumière qui n'est donnée que sur le moment. Et en même temps, prévoir ce qui dépend vraiment de nous, ce que les choses nous laissent prévoir vraiment. Je le redis, c'est un équilibre évidemment très subtil, difficile, et au moins il faut avoir conscience des règles du jeu. Et je vous rappelle ici les paroles du Christ qui illustrent très bien cet enseignement, quand il dit à ses apôtres, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire, ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Il y a deux manières de se laisser piéger. En gros, au niveau de l'imagination, c'est soit plutôt par le bas ou par le haut, je veux dire par le bas au niveau de l'inquiétude. À ce moment-là, c'est la peur qui nous fait imaginer des choses et qui peut briser notre élan, qui peut nous paralyser dans notre réponse à des appels de Dieu. C'est évident que le démon, il joue sur la peur. Le père Thomas Philippe aimait dire que notre premier ennemi, ce n'était pas le démon, mais la peur. On vit dans un monde de peur, et donc par peur, on fait beaucoup de projets, entre guillemets, qui n'ont pas une forme très glorieuse, mais qui sont la manière dont nous cherchons à assurer, à sécuriser notre vie. Et c'est évident que sur ce terrain-là, nous rencontrons énormément de désillusions, parce que la peur, dans l'état de peur, on ne peut rien bien discerner. Et il y a une autre forme qui est, il y a la culpabilité aussi. Par culpabilité, le démon nous pousse à beaucoup de choses qui sont pas, qui peuvent pas venir de l'Esprit Saint. C'est le démon qui est l'accusateur, c'est pas Dieu. Et disons donc une troisième chose, c'est une forme d'exaltation. On prend ses désirs pour la réalité, quoi. On s'emballe. Un effet d'emballement qui fait qu'à partir peut-être de ce qui est à l'origine une certaine aspiration de Dieu, on en rajoute tellement qu'on part dans le décor. En réalité, que ce soit la peur, que ce soit le trouble lié à la culpabilité, ou que ce soit une forme d'ivresse, lié à un goût pour l'action et une ivresse que l'on ressent quand on se met à projeter tout un film, comme on dit maintenant, hein, parce qu'on se fait un film, un beau film, qu'on se délecte dans ce beau film. Par rapport à tout ça, il n'y a pas de place pour y voir clair. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour voir ce qui est donné sur le moment pour se laisser mener par l'Esprit Saint, avec ces lumières qui sont données pas après pas. Par contre, il y a la place pour le prince des ténèbres qui va jouer au niveau de notre imaginaire. Mais je dis que la sagesse consiste à commencer toujours par si Dieu, si le Seigneur le veut, comme dit Saint Jacques. Si le Seigneur le veut, c'est-à-dire se remettre d'abord dans cette attitude de confiance et d'abandon jusqu'à ce que la paix du cœur vienne, parce que la paix du cœur, elle n'est pas donnée par les faux espoirs que nous pouvons nous créer, mais la paix du cœur, elle est donnée par la foi elle-même, c'est la confiance du tout petit. Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère, hein. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Et donc, tant que nous ne sentons pas cette paix du cœur, tant qu'il y a une forme soit d'inquiétude, soit d'excitation, excitation qui peut être joyeuse, hein, mais qui ne vient pas de l'Esprit Saint, la sagesse consiste à ne pas bouger, jusqu'à ce que le jeu se calme, pas prendre de décision en état d'excitation ou d'inquiétude. Ça ne vient pas de Dieu. Les lumières de Dieu, elles viennent dans la paix. Philippiens 4, le Seigneur est proche, n'entretenez aucun souci, en tout recourez à la prière, aux supplications. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans Christ Jésus, c'est-à-dire dans la lumière. Ici, le combat spirituel consiste au fond à savoir attendre. À savoir attendre et à être au clair par rapport à l'état spirituel dans lequel on est. Avoir le courage de s'arrêter avant de se laisser emporter par la machine, au niveau de la pensée et de l'imagination. Parce qu'il y a comme de fausses inspirations, vous voyez ? Ou dans cet état un peu d'excitation joyeuse, d'exaltation, on a l'impression d'être inspiré par Dieu. Et en fait, on n'a pas pris le temps de vérifier l'esprit qui nous animait et l'état dans lequel on était. Donc on a foncé et après on dit mais comment ça, ça se fait que le Seigneur non, le Seigneur il ne suit pas dans ces moments-là. Il nous laisse nous écraser au sol parce qu'en réalité c'est la meilleure chose qui puisse se passer pour nous. Ici les règles du discernement ignatien qui invitent à se remettre d'abord dans l'indifférence, à vouloir plus une chose qu'une autre. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, mais ce qui est sûr, c'est que si nous gardons dans notre cœur cette conscience que la foi elle-même est ce qu'il y a de plus précieux. Si nous aimons faire confiance aveuglément, autrement dit, si nous aimons lâcher prise, c'est plutôt si nous apprenons à aimer, ne pas maîtriser les choses. Si nous apprenons à mettre notre joie dans notre foi, c'est beaucoup plus spontanément que nous reviendrons d'abord à cette attitude de foi qui seule peut donner la paix du cœur et qui, dans cette paix, ainsi, nous donne la lumière, nous rend disponible la lumière de Dieu. C'est pour ça que je reviens sur cette idée que nous devons combattre en gardant présent à notre esprit cette certitude que le premier et le plus beau combat est le plus difficile. Même s'il est le plus simple, il est aussi le plus difficile, c'est le combat de la foi. Et que ce combat de la foi, qui est le plus fondamental, bien, nous sommes appelés à le vivre en toutes circonstances. Parce que la foi est la base de tout. Nous ne sommes pas des gens qui dorment, dit saint Paul, mais nous sommes éveillés. Nous sommes éveillés parce que nous réveillons cette foi. Nous ne laissons pas la confiance somnoler en nous. Nous la réveillons. Et nous sommes heureux de marcher dans cette confiance pour plaire à notre Père du ciel, en pensant que cette confiance est bien plus précieuse encore que les œuvres qu'il nous donnera de réaliser par cette confiance.